qu'on considère le mariage, il y a une chose primordiale dont il faut se souvenir, c'est que le mariage appartient à Dieu. Dieu l'a créé pour le bonheur des hommes et des femmes, et c'est lui qui a établi les lois qui le gouvernent. Plus important même, Dieu a créé le mariage comme modèle de notre lien avec lui. Parce que le mariage appartient à Dieu, non pas à nous-mêmes, le mariage est pour nous une charge que Dieu nous a confiée. C'est un dépôt sacré. Dieu l'a mis entre nos mains et maintenant il est à nous d'agir avec responsabilité. Dieu est le créateur chef, suprême du mariage. Et il a toujours un très grand intérêt dans ce qui se passe. Puisque le mariage a été confié à notre garde et notre bon emploi, nous sommes tenus comme responsables devant lui de donner des justifications de notre conduite. Il faut donc bien connaître nos rôles et nos responsabilités. C'est pourquoi nous avons déjà fait 5 études avant d'en arriver où nous sommes ce matin. 2 études sur l'importance de la famille et du mariage et 3 études sur l'amour conjugal. Et comme titre pour cette étude ce matin, j'ai donné le mari pionnier chef de la famille. Bon, je vais peut-être marcher un peu sur mes propres pieds ce matin, et je vais peut-être aussi marcher sur les vôtres, vous les maris. Mais tenons-nous fermes et acceptons ce que nous apprenons. Je dis que le mari est le pionnier chef de la famille parce que le mariage est comme la conquête de l'Ouest et l'établissement d'un peuple dans ce territoire nouveau. Lorsque nous traversons la ligne qui sépare le célibataire du marié, nous entrons dans un nouveau territoire, un nouveau monde. Peu importe le nombre de personnes qui ont déjà fait cette transition avant nous, il est toujours nouveau et non exploré pour nous. Notre pionnier d'être pionnier dans le mariage relie 2 choses qui peuvent être opposées l'un à l'autre. La première chose, c'est l'espoir. Les pionniers entrent toujours dans un territoire nouveau, plein d'espérance. Mais la deuxième chose qu'ils rencontrent et qui peut s'opposer à l'espoir, c'est la difficulté. Le territoire nouveau ne rend pas ses trésors sans beaucoup, beaucoup d'efforts. Trop souvent, le mariage échoue à cause des difficultés et une des raisons pour le grand nombre d'échecs, c'est le mensonge que dans le mariage, tout ira bien et qu'on n'aura que de bonheur. Mais le vrai pionnier, pourtant, admet qu'il y a des difficultés, mais il ne recule jamais devant elle. Au contraire, elle devient pour lui un défi et un test, si vous voulez. Il va surmonter les obstacles et les vaincre avec tout son être si nécessaire. Tel est l'engagement biblique du mariage. Et le mari, comment devient-il un pionnier? Il devient l'apprenti du pionnier par excellence. Il devient un vrai disciple de Jésus le Christ, que la Bible appelle l'auteur, ou peut-être c'est mieux traduit en Hébreux 12, le verset 2, le prince ou le pionnier de la foi. Le succès d'un homme comme mari dépend donc de sa relation avec le Christ. Paul dit en 1 Corinthiens 11, le verset 3, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Ainsi, un homme qui s'attend à être le chef de son foyer doit tout d'abord être soumis à Jésus afin d'apprendre de lui et être comme lui. Un pionnier chef conduit principalement par son exemple. Il ne reste pas derrière et donne des ordres. Il est là devant en train de faire le chemin et les autres le suivent et font comme lui. Le mariage est une aventure de pionnier car l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ou en d'autres termes, ils font la transition de l'ancien pays au nouveau. Avec sa femme, l'homme explore ce nouveau pays qui est le mariage. Ils ont de l'espérance, mais ils auront aussi beaucoup de difficultés. Et c'est à cause des difficultés qu'il est si indispensable de suivre le chemin que Jésus a tracé. Sans sa conduite, le mariage est voué à beaucoup de difficultés, et peut-être même à l'échec. Notre culture actuelle essaie de dicter les rôles ne sont plus nécessaires dans le mariage. Elle dit même que les rôles empêchent la liberté. Cependant, les rôles de mari, père, femme et mère ne sont pas des produits de notre culture, de notre société. Ce sont des rôles désignés par Dieu pour un but spécifique. Et ce but spécifique, c'est l'ordre dans la famille afin d'avoir le bonheur et la vraie liberté. Liberté de l'esclavage au péché. Rappelez-vous que nous avons montré dans une étude précédente que pour Dieu, l'institution du mariage est très liée à la rédemption de l'homme. Dieu a donc établi l'homme comme chef de la famille. Il est le pionnier chef parce que c'est lui qui a la responsabilité, la très grande responsabilité, de conduire sa famille dans le bon chemin. Dans notre société actuelle, malheureusement, trop de maris ont la tendance de laisser tout qui a rapport avec le foyer à la femme. Surtout l'élevage des enfants qui comprend l'instruction et la discipline des enfants. Une raison donnée pour expliquer cet abandon de responsabilité, c'est que le mari doit travailler en dehors de la maison toute la journée. Et cela c'est vrai, mais ce n'est pas l'excuse pour abandonner son rôle. Au contraire, le temps passé en dehors de la maison doit être pour le mari une raison de passer le plus de temps possible avec ses enfants lorsqu'il ne travaille pas. Selon la Bible, l'excuse de trop de travail ne tient pas debout. La responsabilité d'éduquer les enfants spirituellement est toujours donnée au père. Quand la Bible parle des parents et des enfants dans le même contexte, soit le commandement est adressé à tous les deux parents, soit au père, mais presque jamais à la mère seule. Cela ne veut pas dire que la femme n'a pas de rôle dans l'instruction et la discipline des enfants. Au contraire, elle aussi a un très grand rôle, une très grande responsabilité, mais elle suit la direction déjà prise par son mari pionnier. Si vous avez l'occasion cette semaine, ou au fait, prenez le temps de le lire, lisez l'histoire du prêtre Élie, celui à qui le jeune Samuel a été confié. C'est en 1 Samuel, les chapitres 1 à 4. Élie était un prêtre de Dieu, mais avec toute sa dévotion à Dieu, il ne remplissait pas son rôle de père envers ses deux fils, que la Bible dit étaient des Vauriens. Il y a deux choses parmi beaucoup que nous pouvons apprendre de l'histoire d'Élie. Premièrement, on peut se dire dévoué à Dieu et ne pas élever ses enfants dans la droiture. Dieu a condamné Élie pour son manque de responsabilité, pour sa manque de responsabilité envers ses enfants. Et on peut donc conclure qu'Élie n'était pas aussi dévoué à Dieu qu'il prétendait être. Autrement, il aurait pris garde au commandement de Dieu à l'égard de ses fils. Et deuxièmement, la Bible ne mentionne jamais la femme d'Élie. C'est lui que Dieu tient comme responsable pour la conduite de ses fils. Et nous en parlerons davantage des pères et des enfants dans une autre étude. Mais nous n'avons qu'à regarder autour de nous tous les jours de comprendre que les maris ont délaissé leur responsabilité de mari et père. Quand ils quittent le travail vers 6 heures du soir, où vont-ils? Bon, il y a beaucoup qui vont au bar. Et puis ils rentrent à la maison juste à l'heure de manger, souvent après les enfants sont déjà au lit. Ils se lèvent le matin et partent avant que les enfants se lèvent et ils rentrent après qu'ils sont couchés. Le week-end, ils vont voir les matchs de football, laver la voiture, faire le pêche. Ou s'ils sont chez eux, quand les enfants sont là, ils regardent la télévision. Le grand malheur de la vie de famille. Même quand ils vont au marché, faire des courses avec la famille, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé les hommes marcher à côté de leur femme pendant qu'elle porte des sacs très lourds ou pousse des chariots pleins et débordés de vivres. Et quand il y a de la discipline, j'ai remarqué que c'est presque toujours la femme qui le fait, qui l'a fait. Et si c'est le mari, il laisse passer des choses pendant longtemps et tout d'un coup il explose et gifle l'enfant dans sa colère et l'enfant fait le chien couchant auprès de lui, de peur de recevoir un autre coup violent. Si l'homme n'agit pas comme il faut, comme père, c'est parce que d'abord, il n'est pas ce qu'il faut être comme mari. Et surtout parce qu'il n'est pas ce qu'il faut être comme disciple de Jésus. S'occuper des choses du foyer et de la famille, ce n'est pas masculin, disent des hommes, et souvent même les femmes. La prochaine fois, nous verrons un peu ce que c'est la vraie masculinité. Pas la fausse qui nous entoure tous les jours et entre même parfois dans l'église. Et on va voir ce que cela veut dire d'être un homme. On va regarder l'exemple de Jésus. Vous connaissez tous le jeu d'association des mots. On dit un mot et vous dites tout de suite le premier mot qui entre dans votre tête. Et si je disais le mot chef, la plupart d'entre vous me diraient tout de suite le mot, un mot qui a rapport avec l'autorité. Mais l'autorité n'est pas le premier mot associé avec le mot chef. Le premier mot associé avec le mot chef bibliquement, c'est le mot soumission. Il faut être soumis. Et pendant le reste de cette étude, ce matin, nous allons voir ce que cela veut dire d'être chef. Et nous en parlerons davantage la prochaine fois aussi. Donc j'ai dit que premièrement, le mot chef est associé bibliquement avec le mot soumission. Un homme commence à comprendre son rôle de pionnier chef lorsqu'il reconnaît qu'il est lui-même soumis au chef Jésus-Christ. Il commence à comprendre aussi qu'avec son autorité comme chef de sa femme, il ne doit pas la dominer d'une manière autoritaire, car l'autorité qu'il a est une autorité déléguée de Jésus, et donc elle n'est pas un droit inhérent. En d'autres termes, il a son autorité par sa soumission à Jésus. Parce que c'est une autorité déléguée, le mari doit l'exercer en accord avec la volonté de son chef, qui est Jésus, et pas selon ses propres caprices humaines. Lisez avec moi en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. On peut le schématiser comme ceci. Il y a d'abord le titre chef. Et à côté de chef, il y a Dieu, qui a l'autorité sur Christ, qui a l'autorité sur âme. Et puis sous ce schéma-là, il y a un autre, il y a le titre soumission. Et il y a femme qui est soumise à âme, la femme soumise à l'âme, et puis l'âme qui est soumise au Christ. Il est intéressant à remarquer que dans ce verset, tous les deux, le Christ et l'homme, sont sous un chef dans un sens, pendant qu'il exerce une autorité dans l'autre. Selon 1 Timothée 5, le verset 14, c'est la même chose pour la femme. Elle est soumise à l'autorité de son mari, mais en même temps, elle exerce une autorité dans la direction de sa famille ou de sa maison, de leur maison. Écoutons bien ceci, nous les maris. Notre femme ne saura pas comment se soumettre à nous si nous ne lui montrons pas que nous sommes déjà soumis nous-mêmes à Jésus. Comment peut-on apprendre à être chef de sa famille? Bon, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut reconnaître et accepter l'ordre que Dieu a établi pour la famille. Dieu, Jésus, homme, femme, enfant. On le trouve en plusieurs passages, Éphésiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 11 et 1 Timothée 5, verset 14. Mais deuxièmement, il faut que le mari soumette sa volonté à Jésus. Comme dit Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même. Et encore, il y a plusieurs passages, Matthieu 16, 24, Luc 9, 23, Luc 14, les versets 26 à 35, et Luc 22 à 42. Nous, les maris, devons toujours demander, qu'est-ce que Jésus veut? Que fera-t-il dans cette situation? Quel est son ordre pour ma vie? Donc, quel est son ordre? Son ordre, c'est que je me soumets à lui. Une partie de la soumission du mari à Jésus, c'est qu'il arrive à imiter Jésus afin de bien diriger son foyer. En Éphésiens chapitre 5, nous avons un exemple parfait à imiter. Pas seulement y a-t-il l'exemple de Jésus à imiter dans ce passage, mais il y a aussi des commandements qui font que notre compréhension soit plus facile. Ou on peut dire aussi qui font que nous ayons moins d'excuses si nous agissons mal. Mais lisez Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à 33. Et c'est dans le contexte de l'unité dans l'Église. Paul se sert de l'exemple du mariage pour montrer le rapport que l'Église doit avoir avec lui, et aussi pour montrer aussi l'amour que les uns doivent avoir envers les autres. Mais encore dans ce passage, c'est le mot agapé qui est employé quand Paul dit « Marie, aimez chacun votre femme ». Et peut-être que vous avez remarqué, quand vous avez lu ce passage, qu'il y a peut-être 3-4 versets qui parlent de la femme, mais la plupart parlent de l'homme et de sa responsabilité envers sa femme. Et là, c'est l'exemple qu'il suit quand il suit l'exemple de Jésus. Et dans ma traduction de la Bible, j'ai la colombe, les mots de comparaison tels que « comme » et « de même » se trouve 6 fois pour montrer comment imiter Jésus ou l'Église vis-à-vis de lui. 2 fois, le mot « comme » est employé pour montrer que le mari doit aimer sa femme comme lui-même ou comme son propre corps, mais 6 fois pour montrer comment il faut imiter quelqu'un. Si vous voulez savoir comment agir en chef de famille, faites comme Jésus. Si vous voulez savoir comment vous soumettre à votre mari, faites comme l'Église envers Jésus. Quels sont les commandements de Jésus au mari? Il y a 2. Imitez Jésus dans son amour pour l'Église. Et deuxièmement, aimez votre femme comme vous-même. Versets 25, 28 et 33. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et tous les 2 commandements, ça résume en un mot, aimer. Au premier abord, ce commandement ne semble pas trop difficile à comprendre et à mettre en pratique. Mais il faut bien saisir le sens et l'application de l'amour agapé. C'est un amour qui pense au bien-être de l'autre, c'est un amour qui donne à l'autre. C'est le même amour qui se trouve dans les passages comme Jean chapitre 3, le verset 16, où Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ou en Romains chapitre 5, le verset 8, où Paul écrit « Dieu prouve son amour envers nous, Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et bien sûr, il y a 1 Corinthiens chapitre 13. En Éphésiens chapitre 5, Paul est en train de parler d'un amour sacrificiel. Si on ne lit que les versets 22 à 24, où Paul dit que le mari est chef et que sa femme doit se soumettre à lui, on risquera de dire, peut-être, ce n'est pas mal, je suis le seigneur de ma maison, le souverain. Mais il faut regarder plus loin et plus profondément, parce que l'autorité dont le mari est investi est modelée sur le Christ. Et l'autorité du Christ trouve sa racine dans le sacrifice de lui-même. Ce n'était qu'après Calvaire et sa résurrection que Jésus a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18. L'autorité de Jésus ainsi que l'autorité du mari n'est pas une autorité humaine. Ce n'est pas donc une personne en train de dominer une autre. Parce que si on domine, cela ne vient pas de Christ. Il y a au moins 3 sacrifices que le mari fait par amour pour sa femme et en obéissance à Jésus. Le premier sacrifice est le sacrifice primordial que le mari doit faire pour sa femme et ses enfants, c'est le sacrifice de lui-même. C'est-à-dire qu'il doit être premièrement un disciple de Jésus. Comme dit Paul en Romains chapitre 12, il faut qu'il donne son corps comme un sacrifice vivant. Comme dit Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même. Ce qui veut dire littéralement, il se considère comme s'il n'existait plus. Mais en plus, et deuxièmement, et voilà, nous avons un paradoxe, il semble, mais en réalité, il n'en est pas. Mais deuxièmement, il faut que le mari renonce à sa famille. Il faut qu'il renonce à sa famille. Il est seulement par le reniement de sa famille qu'il puisse vraiment gagner sa famille pour lui-même et pour le Christ. Jésus dit en Luc chapitre 14, les versets 26 et 27, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Le dévouement au Christ du mari pionnier doit être tel que même pas sa famille devient un empêchement pour lui. Pourtant, il n'est pas ce dévouement exclusif au Seigneur Jésus qui devient un mari et un père digne de la soumission de sa femme et de ses enfants à lui. Encore, il est le pionnier pour la famille, car par son dévouement sacrificiel à Jésus, il amène sa famille à se soumettre à Jésus. J'ai remarqué que dans les familles, là où il n'y a que la mère qui agit comme chrétienne, il est beaucoup plus difficile d'élever les enfants dans la foi. Et il y a très très souvent la rébellion parmi les enfants. Mais il est très rare que là où il y a un père profondément chrétien, que la femme et les enfants ne le sont pas aussi. Troisièmement, le père se sacrifie dans le domaine matériel aussi. C'est lui qui, par son travail, gagne le pain pour la famille, et cela doit être lui qui dirige le dépensement des biens d'une manière bien réglée. Cela ne veut pas dire qu'il ne partage pas cette responsabilité avec sa femme et ses enfants mûrs. Mais il veille comme économe fidèle de ce que Dieu lui a confié, et c'est lui qui se sacrifie pour quitter le foyer pour aller travailler. Entre parenthèses, il faut peut-être dire qu'il a été constaté que depuis que les femmes travaillent de plus en plus en dehors de la maison, la vie de famille a beaucoup souffert et il y a beaucoup plus de crimes. Il y a certainement des cas où il faut que la femme travaille. Mais trop souvent, elle travaille pas pour acheter de la nourriture ou des vêtements ou pour aider à payer le loyer, mais afin d'avoir de l'argent pour acheter des petits luxes dont la famille peut se passer. Le sacrifice du mari veut dire peut-être qu'il limite les activités de sa famille, même les emplois, afin que la qualité et la spiritualité de la famille ne souffrent pas. Renoncer à sa famille, dont Jésus parle en Luc 14, veut dire qu'il renonce à le matérialisme afin de se sauver et de le sauver spirituellement. Rappeler les trois manières de se sacrifier lui-même et baser sur ces sacrifices, deuxièmement, l'amour du mari envers sa femme se montre par ses efforts de lui aider spirituellement. En d'autres termes, les besoins spirituels de sa femme sont prioritaires pour les maris soumis à Jésus. Il reconnaît que tout d'abord, que tout bonheur profond que sa femme peut avoir comme épouse et mère dépend de sa relation avec le Christ. Elle aussi doit être entièrement dévouée à Jésus. Le plus grand devoir du mari chrétien donc est la sanctification de sa femme, et son modèle c'est Jésus, qui se livre lui-même pour sanctifier l'Église, son épouse. Le mari chrétien considère sa femme comme sainte, parce qu'elle est. Elle est sainte du fait qu'elle est aussi chrétienne. Et le devoir du mari, c'est de protéger sa sainteté, la sainteté de la femme, de sa femme, et de la faire croître. Mais vous savez, personne ne peut être un plus grand empêchement à la sainteté d'une femme que son propre mari. Par contre, personne non plus ne doit être un plus grand encouragement spirituellement que son mari. Il est primordial donc que nous, les maris, nous veillons à la spiritualité de notre femme. Nous devons dire, mon devoir est de lui bénir. Il n'est pas seulement mon devoir de rendre sa vie heureuse sur cette terre, mais de la préparer pour le ciel. Je dois l'aimer donc comme Christ aime l'Église et veille à sa sainteté. Comment le mari remplit-il ce devoir envers sa femme? Il se livre premièrement lui-même à Jésus. Pour elle, à Jésus. Et deuxièmement, il remplit son rôle de pionnier chef. Il ne la pousse pas devant lui à Jésus, et il ne la traîne pas derrière lui au Christ, non, par sa soumission à Jésus, il l'attire au Seigneur. Mais s'il est toujours en train de rappeler à sa femme qu'elle lui est soumise, cela veut dire qu'il a déjà cédé son autorité. L'appel de Dieu pour le mari est de remplir son rôle comme chef de famille et non pas de haranguer sa femme au sujet de le sien. Et ainsi, le mari qui aime sa femme exerce son autorité avec humilité. Il doit considérer son autorité comme son devoir et non pas comme son droit. Dans son humilité, pourtant, il ne doit pas céder son autorité à sa femme ou à ses enfants. Trop souvent, le père cède son autorité afin de garder la paix dans le foyer. Il laisse passer des offenses, des injures, des folies, seulement parce qu'il ne veut pas de discorde. Mais de ne pas intervenir dans de tels cas veut dire qu'il a abandonné son rôle de pionnier chef et il récoltera davantage de discorde tout de suite, sinon plus tard. Sa responsabilité ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Et il faut qu'il exerce, toujours bien sûr avec fermeté, ou comme dit le dictionnaire, avec consistance et avec douceur. Une femme a écrit au sujet du mari, « Ne cède pas tes qualités de chef, c'est la première chose. Ne nous abandonne pas les rênes. Nous le considérons une abdication de ta part. Nous serions confuses. Nous ne saurions plus pourquoi nous t'avons aimé. Oh, nous prendrons la position numéro un dans le foyer, Mais cela sera une contradiction terrible en nous. Il semblera que nous sommes en lutte avec toi pour le droit de l'autorité. Mais au fond de nous-mêmes, nous voulons que tu gagnes. Il faut que tu gagnes parce que nous ne sommes pas faits pour être chef. Bien qu'il ait autorité et responsabilité pour tout ce qui se passe au foyer, le mari respecte quand même le rôle et la compétence de sa femme. Cela fait partie de son humilité. De demander son opinion, même de laisser certaines décisions à elle, ne diminue pas du tout son autorité. C'est simplement le bon sens de lui consulter, puisqu'elle est aussi intelligente et aussi bénie par Dieu que lui-même. Troisièmement, le mari remplit son devoir envers les besoins spirituels de sa femme par le respect qu'il a pour son rôle et ses activités. La femme doit respecter l'autorité et l'activité de son mari, bien sûr. Mais le mari doit aussi respecter le rôle et l'activité de sa femme, son rôle. Son rôle est important aussi devant Dieu. Si le mari déprécie le travail et la responsabilité de sa femme, il lui fait une grande injustice, une grande blessure, et il soit très difficile à réparer le tort. Une autre femme a dit, il y a une vitamine dont toutes les épouses ont besoin. Même dans les foyers chrétiens, cette vitamine manque parfois. Un homme travaille et gagne son salaire. Son salaire payé tous les mois et la considération que son employeur a pour son travail. Mais la ménagère n'a pas de tels critères. Elle aussi a besoin de considération et de motivation pour ce qu'elle fait. Le Proverbe 31, les versets 10 à 28, dit, n'est-ce pas, qu'une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup celui des perles. Et son mari lui donne des louanges. Il dit, beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Le mari qui quotidiennement honore sa femme et montre son appréciation pour elle et ce qu'elle fait, lui donne cette vitamine si nécessaire à son bonheur. Paul dit en Colossiens chapitre 3, le verset 19, « Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Dans ces paroles, Paul mentionne quelque chose dont nous, les maris, sommes trop souvent coupables. D'aigrir ou d'irriter sa femme, comme suggère la Bible de Jérusalem, de lui montrer la mauvaise humeur, attaque son estime de soi et s'abîme lentement la santé du mariage et du foyer. Trop souvent, le mari croit que sa fidélité à sa femme et son soin d'elle matériellement sont suffisants. Et il ne fait pas attention à sa manière de lui parler, même dans les petites choses. Il a toujours un ton brusque. Ou comme dit une expression que j'ai trouvée, il est un peu ours. Même aux questions ou commentaires de sa femme, il est brusque, soit par sa voix, soit par ce qu'il dit quand il répond. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des femmes dire quelque chose à leur mari et il répond « Ah mais oui !» Comme si elle aurait dû savoir ce qu'il savait déjà, ou tout au moins ce qu'il prétendait savoir. L'attitude que le mari doit avoir remonte à ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, quand il dit « L'amour n'est pas rude », ou comme certaines traductions disent « L'amour n'est pas malhonnête ». Nous n'avons que touché notre sujet ce matin, mais nous allons nous arrêter là pour cette fois. Nous avons vu que le mari est le pionnier chef de sa famille, désigné comme tel par Jésus-Christ, et propre à sa tâche par sa soumission à Jésus. Son rôle, c'est d'aimer sa femme par le sacrifice de lui-même à Jésus, par le sacrifice de sa famille et par le sacrifice de leur matérialisme, le sien et le leur. Le mari montre son amour pour sa femme lorsqu'il veille à sa spiritualité. Et encore, il fait cela par sa soumission à Jésus, par l'accomplissement de son devoir comme pionnier chef, et par le respect de la personne et du rôle de sa femme dans la famille. Je vous remercie de votre attention et que Dieu vous bénisse. Amen.